Bonjour, c'est Une vie, une œuvre. Et aujourd'hui, nous prenons la mer avec Arnaud Contreras et Guillaume Baldi pour un voyage en compagnie du navigateur-écrivain Bernard Moitessier. Né le 10 avril 1925 à Hanoï et mort le 16 juin 1994 à Vanves, Bernard Moitessier avait révélé aux Français la magie du tour de monde à la voile. Il écrivait sur une table de bistrot, prenant des notes sur un petit cahier. Il avait toujours la même silhouette, toujours la même curiosité. Vagabond des mers du Sud, comme le titre de son premier ouvrage, il avait d'abord naviguer sur Snark, puis sur Marie-Thérèse. Mais c'est avec Joshua qu'il construisit sa légende. En 1968-69, c'était la première course autour du monde en solitaire, le Golden Globe. Il était en tête et attendu en héros, mais il a préféré continuer et passer à nouveau le cap de Bonne-Espérance, renonçant à la gloire et à l'argent de la victoire. Tel était Bernard Moitessier, solitaire et passionné.
Je suis citoyen du plus beau pays au monde. Un pays aux lois dures mais simples, qui ne triche jamais, immense et sans frontières, où la vie s'écoule au présent. Dans ce pays sans limites, dans ce pays de vent, de lumière et de paix, il n'y a de grand chef que la mer.
Bernard Moitessier, Le Marin et l'Alliance. Arnaud Contreras, Guillaume Baldi.
Là, c'est un peu la sinistre mise en scène des cimetières bretons avec le marbre, le granit. Là, on est dans le cimetière du Bonneau. C'est là que Bernard a été enterré. Je l'avais porté son cercueil à dos d'homme et on l'avait mis dans la tombe et rebouché. Et planté pas mal de choses, dont le palmier magnifique qui est là encore. Alors voilà, c'est le coin sud-ouest du cimetière, il y a un palmier, il y a des hortensias, le plus extraordinaire, c'est que accroché au palmier ou posé sur la tombe, il y a des témoignages du monde entier. Mais c'est émouvant quand même, hein. Alors en dehors des pièces de bateau, des poulies et tout ça.
Et des stylos aussi.
Des bouteilles vides, des toulines, des pommes de touline, des manilles en parfait état d'ailleurs. Voilà. Et d'autres qui sont un peu rouillées. Enfin bon, c'est des colliers à n'en plus finir. Et c'est assez incroyable. Alors moi j'ai une anecdote d'ailleurs. Un jour on m'avait demandé de skipper un vieux gréement qui s'appelle Jabada pour la semaine du golf peut-être, ou enfin je ne me rappelle plus trop. Et donc, on part, peut-être mettons le mercredi. Le vendredi, il y a un équipier qui fout la manivelle de winch, il n'y en avait qu'une, à l'eau. Alors, on avait encore 2 jours de régate à faire, et je dis, merde, on va trouver une manivelle de winch, le week-end peut-être, ça va être compliqué. Enfin, ça me tourmentait quoi de finir la course avec quand même une manivelle de winch pour... Et puis tout d'un coup je dis ah bah ça y est, je sais où je vais en avoir une, parce que j'en avais vu une sur la tombe de Bernard. Donc je suis venu la chercher le vendredi soir, on a fait le week-end, on a fini les 4-5 jours de régate avec la manivelle, et après je l'ai remise là, mais elle a disparu entre temps. Alors est-ce que quelqu'un en a eu encore besoin, ou est-ce que c'est quelqu'un qui enlève pour faire je sais pas quoi d'ailleurs, parce que sans ça c'est peut-être tout, ce serait trop, il y en aurait partout.
Un peu de manivelle de winch.
Lors de cette visite de la tombe de Bernard Moitessier en compagnie du navigateur Eugène Riguidel, on perçoit la force des hommages. Bernard Moitessier est une idole, un mythe. Sa vie et ses ouvrages inspirent des centaines de marins, de pacifistes, d'écologistes, d'humanistes. Né en 1925 à Saïgon, fils de colons, il passe son enfance avec des pêcheurs vietnamiens. Prisonnier des Japonais avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, puis engagé comme matelot interprète à la Libération, il développe pendant cette période une aversion de la violence et des armes. Un drame familial renforce cette aversion et marque le début de réflexion sur l'alliance à entretenir avec soi-même, avec l'humanité et avec la nature. En 1951, avec un ami, il réalise un premier périple à la voile qui le mène de Saïgon en Indonésie. Dans les années qui suivent, il entreprend de nombreuses traversées sur des voiliers qu'il conçoit ou améliore lui-même, innovant à chaque étape. Remarqué par son style de vie, hobo des mers, ses amis le poussent à écrire. En 1960, paraît Vagabond des mers du Sud. Moitessier devient l'incarnation de l'homme libre, réalisant ses rêves. Il conçoit par la suite son navire fétiche, Joshua. Mais ce n'est pas le goût de l'exploit, du record qui anime le marin. Il est heureux en mer. Moitessier réarmera des bateaux, inspirera des générations de marins et de militants associatifs. Dans son livre testament, Tamata et l'Alliance, il partage sa philosophie faite de méditation et d'action. Il ne s'agit pas de dompter ou d'affronter les dragons qui nous entourent. Il s'agit d'apprendre à nager, à naviguer à leur côté. Il s'agit de respecter l'accord intime que l'on passe avec soi-même et avec l'univers. Citons la Mazou, où est-ce qu'on est dans Paris?
Alors on est exactement à la promenade d'Éric Tabarly. C'est une petite promenade qui longe le quai de Loire, sur le bassin de la Villette, dans le 19e arrondissement. Et dans cet atelier, en ce moment, il est un peu désert parce que toutes les œuvres sont exposées, mais on en a une devant nous qui représente l'île de Wapou. Et j'ai dessiné au pied d'une cascade à Wapou une rencontre imaginaire entre Robert Louis Stevenson et Paul Gauguin. Mais tant que j'y étais, j'aurais pu y rajouter Bernard Moitessier d'ailleurs. Il avait toute sa place dans cet héritage.
Vous avez déjà dessiné Bernard Moitessier?
Non, j'ai pas eu l'occasion de dessiner Bernard, et même pas sous forme de commande, mais je le ferai peut-être. Finalement, j'aime bien aussi dessiner des gens. Un des meilleurs portraits que j'ai réalisé, je crois, c'est celui d'Éric Tabarly. Il était déjà décédé depuis 20 ans. Je l'avais pas dessiné pendant 2 ans et demi où j'étais à bord comme équipier. Il m'était pas venu à l'idée, ou peut-être que je n'avais pas osé lui demander de poser. Parce que je sais qu'il aimait pas trop les interviews où qu'on lui tire les vers du nez. Et donc j'avais pas osé lui demander de l'incommoder.
Vous aviez montré vos dessins, vos peintures à Bernard Moitessier?
Je crois que Bernard les connaissait. Bernard était très admiratif de moi. Mais il était admiratif de... J'avais l'impression qu'il était admiratif. J'ai rencontré comme ça de grands écrivains qui me disaient « Vous êtes mon lecteur préféré ». C'était formidable. Je pense qu'il, lui, il trouvait formidable mes dessins, ce que je faisais en bateau et tout ça. Mais je pense que je n'avais pas... J'étais pas l'unique bénéficiaire des compliments probablement très sincères de Bernard Moitessier. Non, ce dont je me souviens extrêmement bien, c'est la première fois où j'ai rencontré Bernard Moitessier. C'était quelques années plus tard, puisque cette envie de mer qu'avait suscité, entre autres, mais pour beaucoup, la lecture de Bernard Moitessier, la longue route, ça m'avait... quelques années plus tard, j'ai abandonné mes études conventionnelles pour partir sur cette longue route, justement, puisque je suis parti avec mes sacs de gouache sur les ports de France d'abord, puis d'Afrique, et en faisant du bateau stop dans un milieu que je ne connaissais pas. Je connaissais pas la mer, mais j'allais sur la route des tropiques, la route des Antilles. Et c'est là que j'ai croisé quelques temps plus tard, mais c'était pas si longtemps après, puis c'était en 76, donc 4 ans après. J'ai croisé le sillage d'un autre marin fort fameux, qui est Éric Tabarly. Et j'ai eu la chance d'être embarqué à bord de Penduxis d'Éric Tabarly au moment où il partait vers une série de courses et de croisières qui nous ont amenés dans le Pacifique. Et nous sommes allés, nous avons abordé le Pacifique par les îles Marquises et quelques autres archipels avant d'arriver à Papeete. Et tout l'équipage, je me souviens, on avait 22 ans à l'époque, nous étions très excités parce qu'arriver à Papeete, c'était déjà la grande ville, après avoir sillonné pendant des mois des archipels un peu isolés. Arriver à la grande ville, c'était un peu la fête. Et là, on n'en croyait pas nos yeux. C'est-à-dire qu'on arrivait, on se mettait cuaqué, on mettait bateau cuaqué à Papeete, l'endroit qui était fort connu d'ailleurs, qui était assez émouvant puisque cet endroit était peint par Matisse, qui avait vu sur ce quai. On s'est mis sur ce même quai et qui c'est qui a attrapé nos haussières? C'était un long échalas qui était là et qui passait par là, nous a-t-il dit, et c'était Bernard Moitessier. Et il nous a dit qu'il était là par hasard, mais pas complètement, parce que, et ça c'était incroyable d'entendre ça, il était en train de regarder dans les poubelles des bateaux pour savoir s'il pouvait pas trouver des chambres à air, de vélos, des tas d'accastillages que les yachts de passage ne souhaitaient plus conserver. Et c'est comme ça, comme chacun sait, que Bernard Moitessier est armé ses navires avec tous les moyens de récupération. Et c'est donc à ce moment-là, c'était en 76-77, sur le quai à Papeete, que j'ai rencontré pour la première fois Bernard Moitessier. Et il y a eu un certain nombre d'autres croisements de sillage dans la vie. J'avais pris le bateau parce que j'étais attiré par les gens de mer, par les lectures de Moitessier, je dirais de Stevenson ou de Jack London, mais lui aussi, Moitessier, son premier navire, son tout premier bateau s'appelait le Snark. Un hommage à Jack London. Donc c'était un petit peu dans cette voie-là que je m'inscrivais, et d'autres non. C'est-à-dire que d'autres étaient sans doute moins émus que moi de rencontrer comme ça Bernard Moitessier à Papeete, surtout à Papeete, parce que ça, la longue route s'achève à Papeete.
J'ai eu la chance, moi, de le rencontrer en 68, je crois que c'est en 68 qu'il avait fait son exploit, là. Parce que mon beau-frère, Jacques Dercourt, était dans le Cinoche et que Bernard cherchait un producteur pour faire son film, là, le petit film magnifique, 8 mm, là, qu'il a fait. Et puis après, je l'ai rencontré parce qu'il était très copain avec Jacques Toujon, qui est un ami, qui avait navigué avec lui et tout ça. Et donc, je suis allé deux ou trois fois le voir ou dîner chez lui quand il était dans la région parisienne, là. Et puis après, évidemment, j'ai été au courant de toutes ces actions en faveur de, par exemple, qu'il a écrit à tous les maires de France pour leur dire de planter les arbres de la liberté sur le domaine public pour que les gens n'aient pas demandé quoi que ce soit. Ils ont envie de manger une pomme. Moi, j'en ai planté des arbres de la liberté.
Des arbres fruitiers.
Ouais, à fruitier, que des arbres fruitiers, oui, pour que le voyageur puisse éventuellement croquer une pomme, ou, enfin bon, il y en a eu plein, hein, et que ça a marché, son truc, là. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben après, alors il m'est arrivé aussi un truc assez incroyable aussi, enfin, ouais, fantastique, je dirais. C'est que, à l'époque, je voulais absolument que les communes du golfe du Morbihan mettent en place des écoles de voile traditionnelles. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre de Bernard qui me disait « Cher Eugène, voilà, j'ai appris que tu voulais, Jacques Toujon m'a appris ton projet des écoles de voile traditionnelles. Pour la première fois de ma vie, ou de ma putain de vie, je ne me rappelle plus trop du terme, mais je suis riche grâce aux droits d'auteur qui ont super fonctionné, le bouquin. » Alors, je t'envoie un chèque, mais moi, vous voyez, 4 millions d'anciens francs, quoi. Hein. 4 millions, c'était quand même déjà une belle somme, quoi.
Bernard Moitessier, en 1986, sur RFI.
Ce que j'ai retenu, ce qui m'est resté le plus profondément imprimé en moi de l'Asie, c'est la simplicité de faire les choses, hein. J'ai commencé dans le golfe du Siam avec les pêcheurs de mon village. C'est comme ça que j'ai découvert la mer. Bon, mais ils s'attaquaient aux dragons de la mer vraiment à main nue, mais complètement. Il n'y avait rien. Leur drisse, c'était du fil de fer de ligne téléphonique. Leur voile, c'était de la feuille de latanier tressée. On pouvait faire une voile en quelques heures pour un bateau entier. Tout était simple, on fabriquait ces hameçons pour la pêche. La pêche, attention, c'était des milliers et des milliers de hameçons. La pêche aux longues lignes, c'était des lignes qui étaient tendues au fond de la mer, soulevées par des petits flotteurs. à ras du fond et qui pour prendre les raies, les requins bleus. Bon, ben tout ça c'était fait à la main. Le fil de pêche était fait à la main avec du chanvre que les femmes tressaient sur leurs cuisses assises en rond sous un arbre de la plage. Tout ça c'était fabuleux. Donc j'ai appris qu'il était possible de faire quasiment ce qu'on voulait avec rien.
Qu'est-ce que ça donne une rencontre Tabarly-Moitessier ?
Ben, Tabarly-Moitessier, a priori ce sont des contraires, sinon que ce sont des marins et des marins célèbres. Mais pas du tout. Ce ne sont pas du tout des contraires, parce qu'il y avait un réel point commun entre ces deux hommes, c'est que il y avait un mot qui était exclu de leur dictionnaire. C'était le mot superflu. Et Bernard était l'apôtre du dénuement volontaire. Et Éric Tabarly, mine de rien, c'est exactement la même chose. C'est un type qui avait des bateaux sans doute plus majestueux, plus grands, mais toujours dépourvus de ce superflu. C'est-à-dire que c'était des bateaux qui avaient un rôle, enfin, qui avaient une fonction. Et il n'y avait rien, enfin, c'était l'inverse du bling-bling, c'est-à-dire... Et puis ils avaient un point commun également, c'était leur manière de s'habiller, leur tenue vestimentaire, qui se réduisait dans les îles en général à un short, qui n'était pas d'hier et même d'avant-hier, puisque, et ça j'en fus témoin, lorsque Éric Tabarly, à une escale, a mis son maillot de bain, son short qui traînait tous les jours, dans une poubelle, et il me dit, voyez, se sortent, ils osotaient un petit peu, ben, se sortent, les trouver dans cette poubelle il y a 4 ans. Et tous les deux, ils avaient ce côté, ce sont, enfin, Bernard était lui un écologiste avant l'heure qui le manifestait, qui s'engageait. Éric Tabarly était moins disert sur ses engagements, mais comme à son habitude, il ne professait pas son mode de vie, mais c'était exactement la même chose.
Ouais.
Pourquoi est-ce que les gens viennent ici? Pourquoi est-ce qu'ils déposent sur cette tombe de ce navigateur en particulier tant de choses, tant de cadeaux?
Bah moi je crois que Bernard Moitessier, en dehors d'être un super marin, un navigateur formidable, et en plus un grand philosophe, je pense, un sage. Un mec très généreux, donc je pense qu'il y a plein de gens qu'il a dû rencontrer, qu'il a dû aider, ou alors simplement il les a aidés à arrêter de boire, ou je sais pas, mais il est connu dans le monde entier, de toute façon, Moitessier. Moi je sais que je viens de temps en temps ici lui dire salut, quoi. Bon, voilà. Avant c'était bien parce qu'on avait... On avait en plus planté de la ganja le jour de son enterrement, mais là, je pense que les employés municipaux ont éradiqué cette pratique, je sais pas.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Moitessier ?
Alors, Bernard, pour moi, c'est d'abord, ça a été un exemple incroyable, quoi. Moi, j'étais à l'époque assureur dans la région parisienne, je faisais du bateau, j'en ai fait toute ma vie, j'ai fait du bateau. Et j'admirais beaucoup Éric Tabarly et puis Bernard Moitessier, alors que ce sont deux personnages totalement différents. Mais enfin, bon, j'avais beaucoup d'admiration pour l'un et l'autre pour des raisons totalement différentes. Hein, parce que humainement, Bernard, et techniquement, Éric Tabarly. Bon.
J'ai un souvenir vague de nos conversations, mais surtout quelques années plus tard, après cette première rencontre à Tahiti, je l'ai revu, et cela plus longuement, et de façon plus intime, disons, puisque... Il n'y avait plus d'équipage d'Éric Tabarly. Et lui-même, à l'époque, je ne sais pas s'il avait un bateau, en tout cas, il résidait, où il était de passage, à Raiatea et à Taha. Et il se trouve que, en 88, après ma première course autour du monde comme skipper, d'une épreuve qui s'appelait le Box Challenge, c'était le Tour du Monde, je venais donc d'achever cette course où j'étais arrivé second quand même, et j'avais fait parler un petit peu de moi, et puis j'avais loué une petite maison à Taha pour aller retrouver ma fille et sa mère qui habitaient là en Polynésie à l'époque, Et il se trouve qu'un matin, je vois arriver le même grand échalas sur son vélo, avec probablement le même short que 10 ans plus tôt, et qui avait appris que j'étais de passage dans l'île. Et comme ça, on a pris l'habitude de venir tous les matins. Il s'asseyait en lotus et puis il sortait son paquet de tabac, il roulait une cigarette et on prenait un café, on discutait. Il y avait une chose qui m'avait déjà frappé à l'époque, c'était la lumière qu'il avait dans son regard, c'est-à-dire qu'il avait une sorte de bienveillance incroyable. C'est-à-dire que c'était incroyable. On aurait pu penser que, déjà, moi j'appartenais quand même, concouru dans le Box Challenge, cette course, c'était déjà de la voile haute technologie, c'était vraiment de la régate qui n'avait plus grand chose à voir avec le Golden Globe, sinon le parcours qui était le tour du monde. Mais je me souviens que moi, Tussier disait, mais vous êtes vraiment des gens formidables, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, etc. Moi, j'en étais comme de rond de flanc, parce que je pensais qu'il avait un certain mépris pour ce genre de quête, de victoire, alors que lui-même avait renoncé. Pas du tout. Alors, donc, c'est ça qui m'a frappé chez cette personne, c'est chez Bernard Moitessier, c'est cette incroyable lumière de bienveillance. En revanche, il pouvait être extrêmement dur, parce qu'à l'époque, c'était une époque où on n'était pas encore achevé, je crois, ou quasiment. En tout cas, précédemment, il avait lutté contre les essais nucléaires dans le Pacifique. Si quelqu'un faisait du mal à un arbre, il se mettait vraiment en colère, c'est-à-dire que sa bienveillance, elle avait des limites vis-à-vis de ses contemporains. Mais c'est ce qui m'avait frappé, puis cette lenteur, voilà, c'était l'éloge de la lenteur, vous voyez, cette lenteur qui permet d'aller plus vite à l'essentiel. Et ça, c'était toute sa vie, ça. Et je le ressentais dans ses conversations matinales, pour échanger café-clope, tous les deux. Et on avait pris cette habitude, mais c'est ces habitudes qui sont assez profonde, mine de rien. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien l'un et l'autre que cette habitude, elle allait de toute façon s'arrêter très vite. Et c'est ça le grand avantage des voyages. Dans un voyage, on est de passage. Je me souviens très bien de ces matins de Taha avec Bernard.
Cette heure, Intermatin avec Ralph Pinto, Jean-Claude Bourret, Jean Stricker et
Tommy Franklin, les sports.
La radio sud-africaine a lancé hier soir un appel au navigateur français Bernard Moitessier, qui est passé mardi dans la baie du Cap, pour qu'il renonce à son projet de second tour du monde et regagne l'Angleterre comme prévu. Le message était signé du journal londonien qui patronne la course, à laquelle participait Moitessier à bord de son yacht, le Joshua. Il demandait au navigateur, au nom de sa femme et de ses enfants, de renoncer à son projet de second tour du monde et de revenir à Plymouth comme prévu initialement.
Vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas aidé, c'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières. Hein, ça fait 6 mois et demi hein, que j'ai quitté Plymouth. Hein. Mais vous n'avez pas aidé de ce que je suis bien tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est. Vous voyez, c'est comme quand on se tape la tête avec un marteau, c'est bon quand on s'arrête. Mais je plaisante là, mais. C'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que c'est quelque chose. Oh, je ne sais pas si je pourrais raconter tout ça, je ne sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant, ce serait une connerie de rentrer en Europe. L'Europe, enfin je vous en parlerai, mais je vois pas ce que j'irai foutre en Europe maintenant, vous voyez, il y a trop de choses qui sont fausses, j'ai fait de cavaler dans ce pays. J'ai jamais pu vivre un mois plein, ce que j'appelle vivre, vous voyez, vivre vraiment, mais laisser le soleil rentrer en soi, laisser avoir vraiment la grande paix, ben, j'ai pas trouvé ça en France, hein. Je l'ai jamais trouvé, jamais pendant un mois plein. C'est des petites joies qu'on vole de temps en temps. Alors je peux pas rentrer en France, vraiment je peux pas.
Le but de ma vie, en fait, c'était d'être tranquille, de ne pas avoir à travailler, pas faire un travail de bureau ou d'ouvrier. Et c'était en fait d'atteindre ma vitesse de libération, c'est-à-dire avoir assez d'argent de côté pour ne pas avoir de la hantise du pain quotidien. Ça, c'était le but de ma vie. Et pendant ce voyage, j'ai ressenti profondément qu'en fait, je faisais partie de l'humanité. C'était pas moi, ma sale gueule, ma famille, mon petit groupe de copains qui était le plus important, c'était l'ensemble. J'ai changé pendant ce voyage, disons. Je suis parvenu le même. Parti, j'avais une certaine forme et à l'arrivée, bon, ben, j'avais une forme un peu différente.
Joshua, d'abord, ça a été un bateau de consécration, puisque c'est celui qui lui a permis d'écrire notamment La Longue Route et qui lui a permis de participer à cette course mythique.
Nous sommes physiquement sur le pont de Joshua, le pont avant. Nous avons les pieds sur la tôle, hein, de la tôle. Joshua a été construit en 1962. Hein, et il y a des patchs de tôle, enfin neufs, qui ont été soudés parce que avec l'âge et puis son aventure et son passé, il a quelques stigmates, on va dire ça.
Pascal Peluin.
Alors Joshua est un ketch, c'est-à-dire qu'il a deux mâts. Un ketch-cotre, il a deux mâts, une grand voile. À l'arrière, ça s'appelle la voile d'Artimon. Le mât d'arrière est plus petit que le mât de devant. Et à l'avant, il y a deux voiles parce que il y a un grand élancement à l'avant, comme un balcon, quoi, qui fait environ 2 mètres, et qu'on appelle la delphinière. Ça sert à voir les dauphins aussi, enfin à être dessus. Et il y a deux voiles d'avant. Un phoque ou un yonki et une trinquette. Joshua est rouge comme il a toujours été. Joshua a deux yeux dessinés devant qui regardent la mer. Et ça date de l'enfance de Moitessier, qui est né au Vietnam et qui a dessiné deux yeux sur le nez du bateau qui regarde la mer. C'est pour attirer les bons génies. La coque est rouge. Il est assez bas sur l'eau. Le pont est blanc et éblouissant, comme vous. Et le bateau, la longueur de coque fait 12,50 m, et la longueur hors tout avec la delphinière fait 14,50 m en gros. Et quand on baisse la baume d'Artimon, enfin ça fait partie de ce qu'on appelle le gréement, la voile de l'arrière, on arrive à un peu plus de 16 m. Donc on est un peu encombrant dans les ports.
Qu'est-ce qui représente ce bateau pour vous?
Une aventure, mais c'est une aventure qu'on partage, puisque c'est un bateau que beaucoup connaissent. On nous salue en mer. Là, sortant de l'événement Semaine du Golf, où juste avant on a fait le festival des bords de Loire, où on est remonté jusqu'à Nantes, on croise beaucoup d'autres flottes de bateaux, et le mot qui revient, c'est respect. Respect pour le navigateur et l'engagement qu'a eu Moitessier tout au long de sa vie. Respect, et ils sont contents de le voir, et on est, comment dire, bien accueillis dans les ports, comme ici au Croesti. On est plutôt bien accueillis partout où on passe. Les gens sont contents de le voir, et nous, on a à cœur aussi de le partager, de le faire visiter.
Est-ce que vous avez d'autres référents de marin? Est-ce qu'il y a d'autres personnalités maritimes qui vous accompagnent?
Oui, le Toumelin avec Couroune, Bardiot, Marcel Bardiot, un personnage, Tabarly évidemment, après il y en a plein d'autres, hein, mais j'aime bien cela.
Et pourquoi cela, plus que des...
Ce sont des précurseurs, quoi. Ils ont construit leur bateau ont ou fait construire ou récupérer des bateaux bois et ils ont navigué, ils ont fait le tour du monde en commençant par Josua Slocum qui a été le premier à faire le tour du monde lui en étape mais en solitaire. Il a bouclé en solitaire, c'était en 1890 je crois, et sur le bateau qui s'appelle Spray, et c'était un bateau de travail hein, comme à l'époque hein, et si Josua ce bateau du musée s'appelle Josua, c'est en hommage à Josua Slocum qui a été le premier à faire le tour du monde en solitaire.
Moi je m'appelle Patrice Baquet, je fais donc partie de l'association des amis du musée maritime de La Rochelle. Et en tant que tel, j'ai l'immense plaisir de naviguer sur Josua. L'intérieur de Josua a changé par rapport au navire qui a été conçu à l'origine, puisque c'était un bateau destiné à un solitaire, et que ce solitaire se consacrait à la navigation hauturière, et notamment la navigation dans les mers du Sud, qui sont réputées pour avoir des vagues puissantes et très hautes. Donc le bateau était compartimenté en trois morceaux avec donc trois parties étanches les unes des autres. Il y avait la partie avant où il y avait la soute à voile, les cordages et tout ça, qui était fermée complètement par une tôle d'acier. On ne pouvait y accéder donc que par un capot à l'extérieur. Le carré où on ne pouvait y accéder aussi que par un capot à l'extérieur qui a été modifié. Et la partie arrière, où il avait entreposé notamment tous ses outils, et c'était son petit atelier. Donc ce bateau était conçu pour avoir des parties étanches, au cas où il y aurait des grosses vagues qui le rempliraient, et qui risquaient de mettre en péril le bateau et le capitaine.
Vous êtes marin, Patrice ?
Alors je suis un marin, moi surtout de livre. Je suis né à Bordeaux. Mais j'ai toujours été passionné par le monde de la mer et ce qui m'a amené à cette découverte extraordinaire de Josua à travers son livre de Bernard Moitessier, La Longue Route. Et ensuite, ben, le bonheur suprême, c'est d'y être dessus. Josua a une particularité extraordinaire. Je vais même vous raconter une anecdote. Au tout début, quand j'étais donc sur ce bateau, les gens qui passent cette coque rouge avec ses yeux devant, hein, pour voilà, il y a beaucoup d'animisme hein, sur ce côté-là. Il y a une personne qui est rentrée, qui a demandé la permission de monter sur Josua et qui s'est agenouillée sur le pont et qui a embrassé le pont de redécouvrir ce bateau qu'il n'avait découvert qu'à travers le récit de Moitessier. J'ai vu des gens pleurer sur Josua d'émotion. Pleurer d'émotion. Et c'est un bateau qui est cosmopolite, qui appartient à l'espèce humaine. C'est ce qui transpire, moi, je trouve. Josua appartient à l'espèce humaine. Et les gens qui sont sur Josua, c'est pour retrouver cette ambiance où l'homme sur l'océan, c'est une toute petite chose. Et bien évidemment, surtout un solitaire, le bateau, c'est la personne qui est avec soi 24 heures sur 24. Et il se passe quelque chose, quoi, voilà. Et ces gens qui, je pense, montant sur Josua, à travers le récit de Moitessier, il se passe quelque chose, il y a un courant particulier qui passe à travers ce bateau, et les gens. Pas d'échelle, hein. Là on saute et on se hisse à la force des bras, il n'y a aucune commodité. Hein. Et il faut savoir que vous êtes assis sur une couchette, il y a une couchette à l'avant, et on ne peut dormir qu'à 6 puisqu'il n'y a que 6 couchettes sur Josua, dont la couchette double, on est obligé de dormir tête bêche. Quand je vous parle d'humilité, de promiscuité, on est obligé de dormir tête bêche, sinon on n'a pas assez de place. Et en plus, c'est un bateau qui a ce qu'on appelle aucun vaigrage, c'est-à-dire aucune doublure d'isolation. Donc, quand on navigue notamment en avril, qui sont des saisons relativement fraîches, ou en octobre, novembre, il y a une condensation terrible et il pleut dans Joshua. Quand on dort, on se retrouve avec des gouttes de condensation qui vous tombent sur la figure. Là. Vous voyez le confort quoi de Joshua, hein, et les gens redemandent. On veut dormir sur Joshua même en plein hiver. Hein, voilà.
On voit que Joshua a été bien équipé, notamment par des dons. Beaucoup de personnes ont donné à Moitessier. Pourquoi est-ce que tant de personnes ont donné à Bernard Moitessier?
C'est peut-être pour avoir... pour avoir un petit morceau de liberté à travers ce bateau. C'est peut-être ça. Je veux dire, ouais, je veux qu'il vive. Je veux que ce symbole de liberté vive. Et donc... on le sait bien, pour que ça vive, il faut des sous pour l'entretenir. Puis c'est un bateau qui est fragile quand même. Hein. Et puis il a été construit il y a plus de 50 ans. Il a subi des grosses blessures, hein, puisqu'il a été jeté à la côte. Il est impressionnant quand il est mis sur berre. Hein, pour l'hiver, quand on le nettoie, l'équipe de gratteurs de rouille spécialisé de l'association passe beaucoup de temps à ce que ce bateau continue à vivre. Et voilà, je pense qu'à travers les dons, il faut que ce symbole de liberté soit là. Vive! Des moments du livre où il est en contemplation avec les dauphins qui jouent sur l'avant du bateau, avec des moments de grand calme où le bateau est posé sur l'eau, puis il se passe rien. C'est la contemplation suprême. Voilà, ce bateau, il ouvre ses portes et ses fenêtres là.
Ce personnage est entré dans ma vie, comme dans celle de beaucoup d'autres. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Et j'étais au lycée, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'est venue mon envie de mer. Et cette envie de mer est venue, je pense, en grande partie à cause de, ou grâce à Bernard Moitessier, qui avait déjà fait paraître, c'était en 72-73, donc il venait de faire paraître son ouvrage La Longue Route. Et c'était une période où certaines personnes étaient influencées par Sur la route de Kerouac, puis d'autres par La Longue Route de Bernard Moitessier. Et Bernard Moitessier, dans cet ouvrage, je ne sais pas si je l'ai vraiment lu. En tout cas, je suis sûr que je l'ai piqué à la librairie du coin, ça c'est sûr. En même temps qu'un autre ouvrage... dont Bernard Moitessier faisait référence souvent, et plus encore, c'était le tour du monde le premier tour du monde de Joshua Slocum, de Joshua justement, qui était illustré par Hafner, et c'était sous influence à l'époque de mon prof de dessin. J'étais un artiste, moi déjà ma vocation c'était d'être artiste, mais c'était à ce moment-là que par une conjonction de facteurs, différentes influences, je me suis mis à m'intéresser à la mer, et l'ouvrage de Bernard Moitessier, La Longue Route. Puis, j'ai lu aussi Le Vagabond des Mers du Sud, à ce moment-là, qui était déjà paru, et Cap Horn à la voile. C'était, en fait, Bernard Moitessier ouvrait un domaine des possibles. C'est-à-dire qu'il abordait le monde de la mer d'une façon tellement, a priori, simple et surtout une perspective de vie heureuse, en tout cas, que ça donnait accès à un monde des gens qui vont en mer. Je pense qu'il a ouvert des vocations, enfin il a lancé beaucoup de gens sur la mer, je crois, à cette époque-là.
Est-ce que c'est la plume de Moitessier, est-ce que c'est son talent littéraire qui fait que l'histoire soit mieux construite par rapport à d'autres bateaux? Est-ce que c'est son talent, le fait qu'il ait bien su raconter ses moments de vie sur Joshua, qui font que maintenant des personnes aient cette émotion?
Il est certain que dans les récits de navigateurs, il y a le récit qui est pour beaucoup purement technique, où il décline chaque journée avec tant de milles parcourus, à telle vitesse, changer telle voile, tout ça. Moitessier, il a vraiment mis sa personne dedans. Dans son récit, il y a sa personne, il y a sa façon de voir les choses, et à tel point que cette fameuse course mythique où arrivé en tête au milieu de l'Atlantique Sud, il décide de rester en mer. Et bien évidemment, cette décision, ça a fait le tour de la Terre. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Une course dont déjà tout le monde pensait qu'il n'allait pas revenir. Hein, les caporniers leur disaient, mais vous rendez pas compte, les mers du Sud, le Cap Horn, l'océan Indien, vos bateaux d'une douzaine ou d'une dizaine de mètres de long, vous reviendrez pas, c'est du suicide. Et Moitessier a réussi, par ses écrits, à faire comprendre que ben, quand il y a une bonne harmonie entre le marin et le bateau, quand il sait interpréter les nuages, puisqu'à cette époque-là, hein, il n'y avait pas ni balise météo pour leur dire « attention, il y a un coup de vent qui arrive », tout ça. Il n'y avait que la lecture des éléments, et non, à part le ciel et l'eau, ben, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et ben, il a su nous transmettre ça, dire « bon, voilà, je vois que le ciel, il y a des cirrus qui arrivent, c'est la navigation des vrais marins, quoi. Regarder le ciel, regarder la mer, et se dire, oula, ben, il vaut mieux que je change de toile. » Et après, il raconte ses émotions. Il raconte pas à dire, ah ouais, j'ai fait, ça fait 3 jours que je suis à Dineux, ou, enfin, pas Dineux, je suis même pas à Dineux. Mais, voilà, il a su nous traduire ses émotions au lieu de faire un ouvrage technique. C'est dans son livre.
Est-ce que l'acte fondateur de la notoriété de Moitessier, c'est quelque chose qui vous a marqué, vous, Titouan Lamazou? Le fait qu'il renonce à la course et qu'il continue sa longue route?
Je pense que pour ceux qui ont appris l'existence de Bernard Moitessier à l'époque, parce que je crois que ses ouvrages, à cette époque, d'ailleurs, les ouvrages précédents qu'il avait écrits, il les avait écrits incités par quelques amis de rencontre pour gagner un peu d'argent. Donc sa fibre littéraire, elle n'était pas forcément innée au départ, mais c'est un écrivain qu'il est devenu un écrivain. Et la longue route a eu un immense retentissement à l'époque, quoique peut-être relatif, je ne saurais le dire. Mais le fait que cette aventure incroyable de passer, de renoncer à gloire et argent pour ne pas se perdre soi-même, c'est quand même quelque chose de marquant, et d'autant plus marquant qu'on était dans une période où les gens partaient vers Katmandou, avaient une certaine vision de l'existence qu'on a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui. Et là, je crois que je suis allé chercher, moi, dans Moitessier, par le oui-dire de ce qu'il avait fait, de l'aura qu'il pouvait avoir dans un certain milieu, aller trouver ce que je voulais chercher, même si ça y était pas. Et je l'ai trouvé dans Bernard Moitessier, c'est-à-dire les outils pour pouvoir moi-même partir. Je n'étais pas du tout destiné à ce genre de destinée.
Bruit de l'eau, bruit de l'eau, bruit de l'eau. Autrefois, l'alchimiste pétrissait la matière pendant longtemps, 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 très longtemps, très longtemps, très longtemps. Et les gens croyaient qu'ils voulaient fabriquer la pierre magique, celle qui change les choses en or. Ce que cherchait l'alchimiste en vérité, ce n'était pas la pierre magique, celle qui change les choses en or. C'était seulement la transformation de l'alchimiste lui-même, par le temps et la patience, et par le temps encore. Et parfois, l'alchimiste allait trop loin.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Ben, ça évoque justement ce rapport de l'homme et de la nature, l'homme et la matière. Nous sommes faits de matière et bien souvent, notre société moderne, on oublie ça. On oublie, hein, On a des vêtements qui nous protègent merveilleusement bien du chaud, du froid, de la pluie, de la neige. Avant, c'était pas le cas. Les gens étaient confrontés de suite au froid, à la nuit, à la neige, à la pluie. Et on a oublié, je pense, ça. On s'est détaché de ces éléments simples et pourtant primordiaux. Hein. Voilà ce que ça m'évoque.
Pourquoi est-ce que Bernard Moitessier marque plus comme écrivain de mer que d'autres, en fait? Parce qu'il se donne plus, il est plus transparent sur ses failles, sur ses fêlures.
Il y a beaucoup de gens qui s'identifient en tant qu'être humain, quoi. Tout simplement. Je pense que c'est ça. C'est un être humain qui est dans un bateau, c'est sa passion, c'est un monde de liberté extraordinaire, hein, se déplacer grâce au vent qui pousse, hein, puisqu'il n'avait pas de moteur, hein. C'est que le vent, hein, qui était le moteur du bateau, hein. Et cette énorme soif de liberté, c'est dans les écrits de Joshua et dans les écrits de Moitessier. Voilà.
Comment elle s'exprimait, la liberté de Moitessier?
La liberté était à travers notamment l'absence, on peut dire, totale du dieu Chronos. Il n'y a pas de temps. Ce sont les éléments qui déterminent le temps, et ce sont les éléments bien souvent qui déterminent la direction à prendre. Parce que un bateau à voile, si le vent est en pleine face, alors que c'est là où on veut aller, eh ben on n'y va pas. Et donc le temps, pour Moitessier, en bateau à voile, ça n'existe pas. Le temps, je parle le temps de la montre, hein. Ça n'existe pas. Si on veut se déplacer d'un endroit à un autre et que le vent est de face ou que la mer est trop mauvaise, mais on n'y va pas. On attend que... C'était le principe des marins d'autrefois. Hein. L'Hermione, si elle a du vent de face, elle ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. Donc voilà, cette notion de temps, ben ça se conjugue avec la liberté, quoi. C'est obligé. On est libre de faire ce que l'on veut, mais quand on veut.
Tout à l'heure, Patrice, vous évoquiez les personnes qui se mettent à genoux, qui pleurent en montant sur Joshua. Est-ce qu'ils ne pleurent pas vis-à-vis de cette philosophie de la vie aussi qu'ils ont eue en eux? Est-ce que ce n'est pas ça qui les impressionne plus que le bateau, plus que le grand navigateur, le grand marin?
Je le pense, hein, effectivement. Il y a ce symbole de liberté dont on est tous très attachés, hein. Et Joshua, on a quelque chose de matériel qui symbolise la liberté. Perdu maintenant, hein, bien évidemment, puisque Joshua n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais il symbolise cette liberté qu'a eu Moitessier et que les gens ont trouvé à travers justement ses écrits, cette liberté.
Si on veut rapprocher Bernard Moitessier d'autres figures... à qui est-ce que vous pensez? Corto Maltese
J'aurais plutôt tendance à dire des gens qui parcourent le désert par plaisir, ou des gens qui parcourent les montagnes par plaisir aussi. Des grands espaces où il faut faire avec les éléments. C'est eux qui dictent la loi. C'est la loi. Et c'est que la loi, c'est que celle-là. Et donc, les parcoureurs de désert ou les parcoureurs de montagne, c'est Moitessier, quoi. C'est, voilà, parcourir l'océan, parcourir les montagnes, les déserts, la liberté à travers les éléments.
Dans les dernières années de sa vie, il était, je me souviens bien, il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait, c'était l'écriture. À ce moment-là, il était en train de rédiger... son ouvrage testament qui est Tamata et l'Alliance. Il devait vouloir vraiment, parce que je sais qu'il avait beaucoup souffert du fait qu'il n'aimait pas, par exemple, le Cap Horn à la voile, parce que c'est un livre de commande, et il trouvait, mais il se mortifiait, la plupart des gens qui font un exploit, vous sortent un produit de librairie, là, ça n'empêche personne de dormir. Lui, si, ça l'empêchait de dormir, d'avoir un livre qui n'était pas à son sens accompli, qui était juste... la photocopie de son livre de bord, histoire de gagner 3 ronds, et ça lui plaisait pas beaucoup, parce que déjà de gagner de l'argent, c'est un truc qui qui était assez qu'il concevait comme quelque chose d'assez indécent et mais nécessaire. Voilà, alors que je pense que dans la dernière partie de sa vie, l'écriture est devenue essentielle.
Titouan Lamazou, vous le voyez quand il rentre en France, vous le fréquentez?
Comme chaque personne, moi je vois les gens, mes amis les plus proches, de loin en loin. Donc je ne vais pas aller les chercher. Lui, il y a une chose qui m'amusait à la fin de sa vie, justement à l'époque du trophée Jules Verne, au début des années 90. Et c'était très étonnant, Bernard Moitessier, qui était quand même un homme de l'errance, qui a parcouru le monde entier sans arrêt. Il ne tenait pas en place, c'est pas qu'il tenait en place, il se cherchait. Il se cherchait dans des... Je pense que de changer d'univers géographique, ça devait l'inspirer. Il se trouve qu'à la fin de sa vie, il habitait en banlieue parisienne. Et le même Bernard, avec le même regard illuminé, m'expliquait comment c'était absolument formidable d'habiter en banlieue parisienne. Il y avait un truc qui était formidable. Alors là, c'était lui qui avait nagé dans les lagons de Polynésie toute sa vie, etc. Il me disait qu'il y a la piscine municipale. La piscine municipale où il passait 2 heures par jour. Et c'était l'endroit, l'écrin le plus merveilleux qu'il aurait pu trouver. D'ailleurs, il était aussi accompagné avec sa dernière compagne. Et pour écrire « Tamata et l'Alliance ». Et donc voilà, ce souvenir de Bernard que je croisais de temps en temps, puisqu'il était en France, lorsque j'y étais, mais assez rarement. Mais est-ce qu'il était besoin de le rencontrer? Pas vraiment.
Titouan Lamazou, quand vous avez refermé le livre, ce livre, Tamata et l'Alliance, qu'est-ce que vous avez retenu de ce message?
Ce que j'ai retenu, c'est que on en parlait tout à l'heure, est-ce que je revoyais souvent Bernard Moitessier, j'ai regretté de ne pas être allé le voir pour l'écouter un peu davantage, parce que c'était un homme qui ne se livrait pas vraiment, en fait, dans la vie. Et je pensais, enfin, si c'est une remarque très égoïste, mais je pensais avoir déjà tout pris de Bernard Moitessier. Et je pense qu'en ayant lu ce livre, je regrette de l'avoir lu tard, et de pas en avoir parlé avec lui, par exemple, pendant qu'il l'écrivait, parce que je pense qu'il aurait bien aimé qu'on partage avec lui, parce qu'il avait une certaine, c'était pas une facilité pour lui l'écriture, pas du tout. Il était très concentré, c'était chaque mot avait une importance, c'était terrible. Il se facilitait pas l'existence.
Un des chapitres m'a pris un an, par exemple. Ça a été un livre très difficile à écrire. Mon premier livre, Le Vagabond des Mers du Sud, j'ai mis 6 mois à l'écrire. J'étais jeune, mais c'était simple. C'était un gars qui partait, un macaque, qui connaissait absolument rien, qui partait comme ça sur son bateau, et puis qui rencontrait des copains, qui se débrouillait avec son lance-pierre pour flinguer des cormorans, pour se nourrir, qui bossait et travaillait dans les ports pour continuer. Bon, c'était tout simple, de naufrage.
Oui, tandis que là, c'est vrai
ensuite,
que...
Ensuite, le deuxième livre m'a quand même pris presque un an à peu près, Caporne à la voile. Hein, c'était déjà un peu plus difficile, mais enfin, je n'ai pas travaillé assez. Et le troisième, La Longue Route, m'a pris 2 ans pour raconter un voyage, un tour du monde et demi sans escale qui a duré 10 mois. Bon, mais il m'a fallu 2 ans pour écrire ce livre, parce que c'est pas facile de raconter dans un livre 10 mois de solitude sur un bateau.
Et là, c'était une longue traversée, Tamata.
Là, c'était une traversée, une immense traversée, une traversée gigantesque, hein, depuis la tendre enfance jusqu'à après maintenant.
Je vois là, je regarde Suvarov s'estomper dans le sillage. Suvarov, c'est un petit archipel dans le Pacifique, une petite île corallienne. Et il y a des anecdotes absolument incroyables hein, sur la vie de Moitessier. Notamment, il avait essayé de faire comprendre aux Tahitiens que toutes les feuilles des palmiers qui tombaient au sol, il fallait surtout pas les brûler, parce qu'eux, ils les brûlaient systématiquement, ils nettoyaient le sol. Ils disaient, mais il faut pas les brûler, parce que c'est grâce à ça qu'il va y avoir du compost et que vous allez renouveler le sol. Voilà. Et il s'était rendu compte aussi qu'ils étaient très embêtés par les rats de cocotiers qui mangeait les noix de coco, hein, et donc il avait capturé tous les chats sauvages qu'il pouvait à Tahiti. Il les avait mis dans Joshua. Il les avait amenés dans un petit archipel en espérant que les chats s'occupent des rats. Et malheureusement, il est revenu quelques temps après. Hein. Ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pu retrouver aucun chat. Et par contre, il y avait toujours les rats. Donc voilà, moi aussi. Et à Suvarov, il y avait un monsieur qui vivait en ermite, hein, tout seul, au milieu du Pacifique, sur un petit atoll corallien. Il s'appelait Tom Neal. Et Moitessier s'était lié d'amitié avec lui, puisqu'il était vagabond. Hein, il allait d'atoll en atoll, voilà, et rencontrait les gens. Et ce monsieur, ne voyait des gens que peut-être une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, dont Moitessier. Voilà. Quand je me suis arrêté chez Tom pour lui dire au revoir, je lui ai parlé du doute. Peut-être quelques bribes de doute restaient-elles encore accrochées dans un coin de son être. Tom a bien ri et il a dit « Oui, je l'ai souvent rencontré au début. Maintenant, c'est très rare. Mais si cela arrive, je lui pisse dans l'arrêt du derrière et il s'en va vite fait. » Effectivement, comment un homme tout seul sur un caillou où le souci numéro un, justement, sur les atolls coralliens, c'est l'eau douce. Il n'y a pas d'eau douce. Et donc, il fallait être ingénieux pour essayer de récolter les eaux de pluie au maximum, ne serait-ce que pour faire pousser... je sais que Mathieu lui avait porté des plants de tomates pour se nourrir. Hein. Et avoir de l'eau douce dans les atolls coralliens, c'est quelque chose... Hein. Difficile. Et donc, bien évidemment, qu'ils ont dû être accaparés bien souvent par le doute, se dire mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Ben, je vis, voilà. Je vis en harmonie avec, avec la nature.
Là, comme ça ou pas ?
Ouais,
bon. Et là, après, je vais passer de l'autre côté, je vais regarder ce que c'est que ce truc vert là. Je sais pas ce que c'est que ça. Bon, allez.
Allez, on en fait.
Ça y est. Ah.
Et attends, j'en fais une dernière. Avec ça.
C'est incroyable, non? Des coquillages qui viennent de Pacifique, qui se retrouvent... Ah, un ormeau. Ça, c'est plutôt local, tiens. Ouais.
Non, mais c'était sympa, surtout que vous ne la connaissiez pas, la tombe.
Alors, non.
C'est quand même un lieu, mais ça défile, hein, les gens viennent. Hein. Moi, souvent, je viens...
Bon.
Bon, bah...
Allez, je prends la photo.
Allez. J'en ai d'autres, hein, des amis ici. Hein.
Bernard Moitessier, Le Marin et l'Alliance, avec Eugène Riguidel, Titouan Lamazou, Pascal Pelloin, Patrice Baquet. Réalisation Guillaume Baldi. Coordination Christine Bernard. Attaché de production Pascaline Bonnet, stagiaire Thibaut Terragnon. Archives compartiment réservé 1960, L'échappée belle 1984, Espace océan 1986 et archives personnelles Moitessier. Merci aux amis du Musée maritime de La Rochelle, à Solène Olivier et à Serge Calca. Un documentaire d'Arnaud Contreras pour Une vie, une œuvre, France Culture.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Thibaut Terragnan.